Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir Michel Bussy.
Bonsoir.
C'est un grand bonheur de vous recevoir à Bordeaux pour cette rencontre ce soir autour de votre dernier roman qui est paru donc le 4 mai 2016 et qui s'appelle « Le temps est assassin ». Beau titre, je parie que beaucoup d'entre nous sur les côtes aquitaines l'emporteront sur la plage, il est fait pour ça. Et donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà pourquoi ce roman, ce nouvel opus se situe en Corse et pas comme de nombreux autres de vos romans précédents, en Normandie ou bien à La Réunion?
Oui, bon, déjà, il y a l'idée de changer d'un roman sur l'autre. C'est vrai que j'essaie toujours un petit peu de changer d'univers, de changer de thème. Et donc, j'avais fait plusieurs romans sur la Normandie, mais c'était presque le hasard. C'est-à-dire que bon, Maman a tort, j'avais besoin d'une ville. Enfin, au départ, ce n'était pas forcément situé en Normandie ou au Havre. Et puis, voilà, j'avais besoin d'une ville, d'un port, d'un aéroport, de la mer. Enfin, voilà, donc, et puis, le Havre, c'est un petit peu imposé. Donc, voilà, donc, il n'y avait pas celui d'avant, n'oubliez jamais. Mais il y avait les falaises, donc c'est vrai que là aussi le lieu s'est un petit peu imposé de lui-même. Et puis là, quand j'ai eu cette idée de roman sur Le temps est assassin, tout de suite me sont venues plutôt des images de vacances. Enfin, il y avait cette idée de l'accident de vacances et puis de l'univers d'une ado en vacances et de revenir sur un lieu de vacances des années plus tard. Et donc, nécessairement, je trouvais que la Normandie cadrait quand même moins avec cet univers-là. Et donc, voilà, avec tout ce que j'avais comme. Comment dire ? Dans mon casting, voilà, il fallait qu'il y ait un côté mystérieux, un côté paradisiaque, et voilà, pour qu'il y ait cette espèce de mélange des deux, qu'on soit à la fois dans un univers très, très paradisiaque de vacances, et d'un autre côté, ce parfum de mystère. Et donc, assez naturellement, la Corse m'est venue comme un lieu un peu idéal, qu'en plus je connaissais bien, ça fait longtemps que j'avais envie d'écrire sur la Corse. Donc voilà, donc les choses se sont... voilà. Mais je fais un peu un casting, hein, c'est-à-dire que voilà, j'ai d'abord mon histoire, et après j'essaye de voir quel est le lieu qui correspondra le mieux à mon histoire. Mais souvent, je commence à l'inventer hors sol, sans forcément mettre un lieu précis, à part un petit peu pour le roman sur La Réunion, mais sinon tous les autres, voilà, souvent j'ai une histoire assez précise, voilà, et après je regarde où est-ce qu'elle pourrait au mieux se situer et j'ajuste.
Alors, on reviendra tout à l'heure sur, entre guillemets, l'atelier du raconteur d'histoires fabuleux que vous êtes. Mais pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, et je pense qu'il n'en reste pas beaucoup, puisque vous avez dépassé le million d'exemplaires vendus, vous êtes quand même un phénomène éditorial, surtout depuis ces trois dernières années, puisque vous faites partie avec Guillaume Musso et Lévy du trio de tête des écrivains français les plus lus. Et vous êtes traduit dans 31 langues, je crois, à l'heure actuelle. Et donc, tout ça a décollé, surtout à partir du moment où vous êtes passé aux Presses de la Cité. Mais vous aviez écrit avant 4 ou 5 romans, si je ne m'abuse, chez un éditeur régional normand, Les Falaises. Et donc, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, il y a longtemps que vous écrivez, depuis les années 90. Et donc, le premier manuscrit, je crois, qui a été édité, c'est pour Le Code Lupin, c'est ça ?
Oui.
Voilà, Le Code Lupin, donc, qui était non pas un roman policier tellement, même si, bien sûr, c'est autour de Maurice Leblanc. Et donc, on a quand même là un classique du roman policier avec Les Aventures d'Arsène Lupin. Mais disons, c'est plutôt un roman pédagogique, ludique. Et de découverte aussi des sites, là déjà, hein, des sites fameux, l'Aiguille Creuse, etc., autour de l'œuvre de Maurice Leblanc. Est-ce que vous pouvez nous en parler, vos débuts et donc ce premier succès avec Le Code Lupin?
C'est vrai que Code Lupin, c'est un intermédiaire, c'est-à-dire que ce n'est pas le premier roman que j'ai écrit, puisque le premier c'est Gravé dans le sable, hein, mais qui n'avait pas trouvé preneur. Et du coup, le hasard fait que quand j'ai eu cette idée de Code Lupin, donc plutôt une biographie de Maurice Leblanc romancée, une géographie d'Arsène Lupin, donc j'étais géographe, enfin, je suis toujours géographe de de métier. Et en lisant les Arsène Lupin, l'idée m'était venue que, tiens, on n'avait pas fait vraiment de géographie d'Arsène Lupin. Il y a eu beaucoup de choses autour d'Arsène Lupin, sur un peu l'ésotérie, sur évidemment la biographie de Maurice Leblanc. Enfin, il y avait toute une série de choses qui avaient déjà été bien écrites. Il y a tout quand même beaucoup de gens qui s'intéressent à Arsène Lupin, mais il n'y avait pas eu vraiment de géographie d'Arsène Lupin. Et donc, je me suis dit, tiens, ça serait amusant, puisque j'avais vraiment envie d'écrire, de se dire, tiens, c'est peut-être une entrée dans le monde de l'édition que de faire un livre qui était un livre à la fois romancé, mais savant, en quelque sorte, donc, sur Arsène Lupin. Et puis, donc, j'ai écrit ce code Lupin avec l'accord de mon éditeur. Et puis, au départ, ce qui devait être un beau livre avec des photos, avec des cartes, enfin, quelque chose qui était plus du domaine du beau livre, avec beaucoup de citations de Maurice Leblanc, eh bien, c'est transformé en roman, puisque l'éditeur, en gros, il m'a vu venir comme un universitaire, donc il s'est dit, tiens, voilà quelqu'un qui va me faire un truc très sérieux, voilà, donc on va en vendre quelques-uns. Et finalement, quand il a vu mon manuscrit, il s'est dit, non, on va le publier comme ça, il n'y aura pas, pratiquement pas de photos, il n'y aura pas de couleurs, il n'y aura pas de mise en page, voilà, on va publier ça sous forme de roman. J'étais, sur le moment, un peu déçu, parce que je m'attendais à ce que, voilà, on fasse un truc, voilà, comme un livre habituellement d'hommage à un auteur, un écrivain. Et bon, l'éditeur s'est dit non, mais ça, c'est plus un roman qu'autre chose. Bon, du coup, et donc c'était un contrat de 500 exemplaires et puis on en a vendu. Voilà, enfin, ça a été réédité cette fois, donc ça a été, c'est parti comme ça. Mais c'est vrai qu'au départ, je ne l'avais pas du tout conçu comme un roman, mais vraiment comme une sorte de jeu autour de, voilà, des lieux normands de Lupin, un truc, un bouquin qu'on prendrait pour se balader, pour redécouvrir les lieux, et trop tard, hein, Jumièges, enfin, tous ces lieux normands dans lesquels circule Arsène Lupin.
Voilà, et donc, gravé dans le sable, vous venez d'en parler, c'est également une longue histoire, en fait, puisque au départ, il y avait vos travaux, on peut dire ça comme ça, vos travaux sur les côtes de Normandie. Et donc l'histoire, alors vous êtes géographe, mais vous avez aussi été historien pour écrire certains de vos livres et qui sont très documentés.
Oui, bah, alors gravé dans le sable, alors c'est vrai qu'il a eu plusieurs vies, on va dire, deux, trois vies, parce que le premier, c'est effectivement, alors le premier titre original, ça s'appelait L'Ardoise, ça je ne le dis pas souvent, quand on lit la préface, on le sait, donc j'avais écrit ce roman en 94, donc qui s'appelait L'Ardoise, et puis il n'a pas trouvé d'éditeur, hein, donc je l'ai envoyé à quelques éditeurs qui n'ont pas voulu, donc il a dormi dans un tiroir comme ça pendant 10 ans, mais j'étais content, j'avais quand même écrit mon roman, même si pratiquement personne ne le savait, en tout cas il n'était pas édité. Mais je n'étais pas dans la logique, j'édite moi-même, bon, voilà, si. Donc c'était quelque chose qui était un petit peu derrière moi, mais j'étais quand même content d'avoir ce manuscrit-là. Et l'idée de départ, c'était vraiment les plages du débarquement, c'est-à-dire que alors c'était autant géographe qu'historien, c'est-à-dire que je connaissais bien ces plages du débarquement, et ce qui me passionnait, c'était de comment finalement ces plages avaient vieilli, en quelque sorte, depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis le débarquement, parce qu'évidemment, c'est des lieux assez étonnants, puisque à la fois on a les cimetières américains, les trous de bombes, les blocos, enfin, on a comme toute cette mémoire de la guerre, du débarquement, qui est très présente. Et d'un autre côté, ce sont des lieux touristiques où les gens viennent en camping, se baignent. Voilà. Donc on a ce mélange d'un lieu de mémoire et d'un lieu finalement d'été. Voilà. Et c'est ça que je voulais raconter. Comment finalement, depuis 1944, évidemment, les lieux ont évolué. Donc les gens ont vieilli avec ce souvenir du débarquement. Et donc voilà, donc très romanesque, une héroïne qui a 18 ans, enfin plusieurs héroïnes qui ont 18 ans en juin 1944 et qui vont comme ça vieillir avec le secret, les mystères, bon, tout le roman. Mais ce qui m'a intéressé au début, c'est d'essayer de rendre un petit peu cette atmosphère très particulière des plages du débarquement, qui est à la fois très joyeuse, parce que c'est la libération, c'est la voie de la liberté, donc il y a une sorte de fierté comme ça d'être ce lieu-là, et puis aussi un traumatisme, parce que évidemment les villages ont été bombardés, il n'y a plus d'église, enfin. Donc c'est vrai que c'était un lieu qui était très romanesque finalement, et mettre tout de suite, voilà, une petite Normande et une Américaine de 18 ans qui chacune soit perdent tout, soit gagnent tout ce jour-là. Bon, ben voilà, et de les voir vieillir comme ça, je trouvais que c'était une... j'ai beaucoup aimé cette histoire, parce que c'était, oui, très, très romanesque, c'était la petite histoire dans la grande histoire, puis on va aux États-Unis, on voyage, bon. Donc voilà, donc j'ai écrit ça vraiment dans le sens de faire à la fois un roman historique, géographique, et puis peut-être beaucoup aussi de second degré. Enfin voilà, donc j'ai improvisé, hein, je n'avais pas du tout de modèle, donc j'ai improvisé, et on a publié, republié Gravé dans le sable, donc il y a 2 ans maintenant. Et finalement, on ne l'a pas beaucoup modifié. Donc, j'ai peut-être un peu changé de style. Mais en tout cas, dès ce premier roman, je crois que j'avais à peu près la même façon d'écrire mes histoires que j'ai encore aujourd'hui.
Voilà. Deuxième roman, premier roman policier, Omaha Crimes, enfin au Crimes, je ne sais pas comment il faut dire
d'ailleurs. Ouais, je disais crime, mais bon, voilà.
Vous disiez crime. Voilà. Et là, vous trouvez votre style, vous trouvez peut-être aussi votre genre, mais qui est un renouveau du roman policier quand même.
Ouais, je sais pas trop. Je me suis pas posé la question en fait quand j'ai écrit ce roman-là. Après, c'est un peu, on essaie de. Parce que moi, je l'ai dit souvent, par exemple, c'était un peu en hommage à Sébastien Japrisot, notamment Long Dimanche de fiançailles, qui est clairement le bouquin que j'ai lu avant d'écrire Gravé dans le sable. Donc en fait, déjà Japrisot, pour ceux qui connaissent L'été meurtrier, ce type de roman, a déjà quand même en partie quand même cette idée qu'il y a un peu de policier, un peu d'histoire, des intrigues familiales assez complexes. Donc voilà, je pense que c'est aussi un héritage assez français qu'avoir ces histoires de famille avec un peu de suspense, voilà. Peut-être que moi j'y rajoute évidemment une écriture plus moderne, enfin un peu plus avec des chapitres courts, avec des cliffhangers, à chaque moment, ce qu'il n'y avait pas forcément les romans il y a 30-40 ans. Mais en dehors de ça, je pense que l'histoire ou les histoires que je raconte s'inscrivent quand même dans une certaine tradition française. On pourrait parler à Boileau Narjejac, enfin voilà, quand on pense à Surfroide ou Diabolique, enfin tout cet héritage-là, on est déjà quand même dans des histoires qui sont des histoires en fait à suspense, souvent assez bien ficelées, jouant sur la manipulation, la psychologie. Donc je crois qu'il y a quand même une longue tradition française de ce type d'histoire. Après évidemment, les façons d'écrire évoluent un petit peu avec le temps, mais le fond de l'histoire, je suis pas sûr qu'il soit si nouveau que ça en fait. Et peut-être même que si mes romans marchent, c'est parce que les gens ont envie aussi de retrouver ce type d'histoire qui. Enfin, je ne suis pas le seul à faire ça, mais qui se sont peut-être perdus au profit soit du thriller pur, donc le tueur en série, etc., soit au contraire du roman très psychologique, très l'enquête, très détaillée, très minutieuse, qui est très bien aussi. Mais du coup, c'est aussi quelque chose qui s'inscrit quand même dans la tradition de grandes sagas familiales à suspense, où voilà, on s'identifie aux héroïnes. Donc c'est à la fois un peu policier, mais c'est aussi très, très romanesque et très. Comment dire, oui, avec comme la vie, quoi, avec ce lot de surprises, de violences un peu larvées, de non-dits, d'histoires de village. Voilà. Bon, c'est vrai que ça, je crois que ça s'inscrit quand même dans une certaine façon de raconter les choses. D'ailleurs, même des grands classiques, des Balzac, etc., ont aussi écrit un peu dans ce genre-là, ont utilisé ces codes-là des secrets de famille Maupassant, enfin, etc. C'est quand même quelque chose qu'on retrouve beaucoup quand même
Oui.
dans l'identité un peu de la littérature française, ce côté, enfin, l'attachement au lieu, souvent, l'attachement au lieu et au secret des lieux et au poids que ça a, hein, les choses qu'on a cachées comme ça.
Oui, c'est vrai qu'on pourrait penser à la comédie humaine, parce qu'il y a des lieux, il y a des familles. Et il y a des familles avec des intérêts, avec des secrets, et on retrouve ça de roman en roman. Mais
Et
si,
d'ailleurs, oui.
pardon.
Oui, et d'ailleurs, je crois que c'est aussi, bon, si mes romans sont traduits, on peut toujours s'étonner de se dire, mais qu'est-ce que les gens des Coréens ou des Brésiliens vont trouver comme intérêt à aller lire un truc sur Rouen ou sur les falaises de Normandie? Mais je pense que oui, que les gens dans la littérature française attendent aussi ce côté très ancré dans un lieu. Enfin, qui forcément, quand on est à l'autre bout de la planète, on fantasme un peu sur la France, enfin, des stéréotypes sur la France. Et je crois que la Normandie ou même la Corse aujourd'hui, etc., sont des lieux qui font un petit peu rêver. C'est-à-dire, voilà, je pense qu'on s'imagine aussi la France avec ses petits villages, avec ses paysages un peu intemporels. Et je pense que c'est ce qui fonctionne bien aussi ce côté. C'est-à-dire qu'évidemment, on n'attend pas forcément de la France, peut-être que des romans qui se passent dans des mégapoles, avec des lieux un peu neutres. Je pense que des lecteurs, voilà, quand j'écris Un fait à noir sur Giverny, je pense que ce sont aussi des lieux où les jeux qui apparaissent sont French, quoi. Enfin, c'est ce qu'on me dit parfois. Voilà, c'est très français dans le sens où voilà, on a l'impression d'être dans quelque chose qui est un petit peu une France qui est attendue par des. Voilà, comme quand nous on lit un roman suédois, bon, on a quand même envie qu'il fasse un peu froid, enfin, on a l'impression de. Voilà. Donc là, je pense voilà, que les gens ont envie un peu de trouver une petite partie de la France
Oui.
dans les romans, quoi.
C'est vrai que même les Japonais connaissent les impressionnistes, c'est le mouvement qu'ils préfèrent, et puis les Nymphéas de Monet en particulier, donc beaucoup sont venus à Giverny où on en a entendu parler. Et c'est vrai que les Nymphéas noirs, donc Nymphéas noirs, qui donc marquent votre passage aux Presses de la Cité, votre entrée chez les Presses de la Cité, marque aussi votre nouvelle popularité, parce qu'entre-temps, il y a eu plusieurs romans. donc toujours chez Falaise, je crois, qui vous ont fait connaître, bien sûr, qui vous ont amené un lectorat fidèle. Mais vraiment, le grand, grand succès avec le meilleur roman policier de l'année 2011, c'est Nymphéa noire.
Oui, bah, enfin, meilleur roman, je ne sais pas.
Le plus primé.
Il a été beaucoup
2011,
primé.
Voilà.
Oui, bah, ce qui s'est passé avec Nymphéa noire, c'est que bon, j'ai eu la chance que les presses de la cité le publient, acceptent de le publier. Donc, de rentrer évidemment dans une maison d'édition nationale, c'est toujours un saut, c'est souvent le rêve. D'ailleurs, je peux faire une petite parenthèse, puisque là, on est entre guillemets en province, et je suppose qu'il y a des tas d'éditeurs du Sud-Ouest. Et donc, une autre richesse en France, c'est quand même toutes ces éditions régionales qui permettent à beaucoup d'auteurs d'être publiés et aussi à beaucoup de lecteurs de lire des romans, parce que s'il n'y avait que que des éditeurs parisiens, ça serait compliqué pour beaucoup d'écrivains. Et donc voilà, donc il y a aussi y a un peu de strate, quoi. Il y a effectivement tous ces auteurs dont j'ai été longtemps qui écrivent chez un éditeur régional et qui sont très contents parce que les bouquins sont souvent très présents dans les librairies, restent longtemps, c'est des auteurs qui peuvent être connus localement, donc tout va bien, la presse locale en parle, enfin voilà, donc c'est parfait. Sauf qu'évidemment, à un moment donné, tout écrivain, même s'il est très content d'être chez son éditeur régional, j'en connais peu, qui ne rêve pas évidemment de passer à la marche supérieure et d'être chez un éditeur national, ce qui évidemment suppose, qui implique l'accès aux médias nationaux et à voilà, toute une série d'autres dimensions. Donc moi, j'ai eu la chance que Nymphéa noire voilà, soit remarqué, entre guillemets. Et du coup, tout de suite, Nymphéa noire, alors ce qui s'est passé, c'est que c'est vrai que c'était un peu un ovni quand même dans le monde policier, hein, puisque ça se passe à Giverny. Enfin voilà, c'est pas un vrai roman policier, c'est un truc un peu bizarre, enfin, pour ceux qui l'ont lu. Et du coup, comme je pense que c'était un peu original par rapport au... Une nouvelle fois, comme on était vraiment dans la mode plutôt des thrillers un peu noirs, un peu gore, un peu violents. Bon, ben, Nymphéa noire, évidemment, était très, très différent. Et du coup, il a raflé pas mal de prix. Et je pense qu'aussi, c'était souvent des prix lecteurs et que voilà, les gens voilà, voyaient un peu un suspense un peu différent par rapport aux enquêtes classiques. Donc voilà. Et donc, du coup, c'est vrai que Nymphéa noire m'a fait connaître plutôt dans le cercle des amateurs de romans policiers, en se disant, voilà, il y a quelqu'un qui écrit des romans un petit peu différents et qui fonctionnent bien aussi.
C'est ça. Et puis à partir de là, vous êtes abonné vraiment au succès populaire, très très populaire, avec Un avion sans ailes en 2012. Et puis chaque année, finalement, vous sortez un roman qui a un très très grand succès. Et donc, on revient à ce dernier opus, donc ce pavé sous la plage ou sur la plage, qui va vous tenir haletant à partir des premiers paragraphes, parce qu'on est tout de suite pris. Le début est assez noir et tragique et sanglant.
Ben c'est vrai que dans ce roman-là, c'est vrai que... Alors, on ne le sait pas à l'avance quand même, quand on invente l'histoire, mais quand j'écris les 3-4 premiers chapitres, j'ai senti qu'il y avait une mayonnaise qui prenait. C'est-à-dire que souvent, c'est les plus compliqués, le démarrage. Enfin, tout est compliqué, mais on a quand même le démarrage. Il y a des démarrages parfois lents, il y a des démarrages rapides. Et c'est vrai que sur Le temps est assassin, tout de suite, il y avait quelque chose qui tournait bien, parce que voilà, une première scène d'accident, puis on est 27 ans plus tard, puis on revient en arrière, puis... Enfin, voilà, il y avait quelque chose, une mécanique qui tout de suite, enfin moi qui, voilà, qui je sentais qu'il y avait une sorte de dynamique là qui collait bien et voilà donc mais j'ai mis longtemps à trouver cette mécanique. Il fallait effectivement que j'invente l'idée que c'était 27 ans plus tard, que enfin comment dire, pas un petit pour ceux qui, enfin, évidemment, tout le monde l'a pas lu, donc on va pas dévoiler des choses, mais on a une première scène où Clotilde, mon héroïne, a 15 ans, donc elle va avoir son accident de voiture, et puis tout de suite après, la scène d'après, c'est 27 ans plus tard, le même lieu, donc le lieu de l'accident, mais Clotilde revient, elle a 42 ans, et elle a sa fille de 15 ans qui est à côté d'elle et son mari. Et donc, on voit qu'elle revient là pour la première fois, qu'elle dépose un petit bouquet, et j'ai bien aimé ce démarrage, j'ai senti que ça marchait, parce qu'en fait... Je trouve que tout de suite, on est dans une espèce d'ambiguïté parce qu'on voit Clotilde, à 15 ans, qui perd tout. Donc, on la laisse là avec ses parents qui sont morts. Elle est voilà, forcément traumatisée par ça. Et puis donc on voit cette femme 27 ans plus tard, et quand elle revient sur les lieux donc du crime évidemment, enfin du crime de l'accident, qu'ont tout évidemment les lieux ont oublié cet accident 27 ans plus tôt, ben voilà, on sent bien tout son désarroi parce qu'elle a une fille de 15 ans qui voilà n'a jamais connu ses grands-parents, donc il se fout complètement de cet accident. À 15 ans, elle est en Corse, elle a aucune envie, c'est d'être en vacances en Corse, et donc sa mère l'emmène sur un lieu lui parlant d'un accident 15 ans avant qu'elle naisse. Bon, elle est un peu polie, puis elle regarde sa montre en disant bon, ben voilà. Et on voit bien que bah, Clotilde, adulte, elle est un peu désemparée, en ne sachant pas comment aborder ça. Son mari aussi lui dit, bon, voilà, maintenant on est en vacances. Voilà, c'est... Et comme on est dans la tête de Clotilde, on, je trouve qu'on comprend très vite quelle est cette espèce de dilemme, au-delà de l'effet policier, qui est de dire, bah, voilà, est-ce qu'il faut effacer le passé, ou est-ce qu'évidemment, il va lui revenir en pleine figure, parce qu'elle va évidemment retrouver tous les acteurs de cet accident 27 ans plus tôt, quoi. Donc ouais. Tout de suite, voilà, c'est dans un roman policier comme ça. Moi, j'ai l'intrigue. Et après, on sent si psychologiquement, ça marche. Et là, tout de suite, je me suis dit, oui, psychologiquement, tout de suite, Clotilde, elle était là. Et on voyait quelle était son,
oui.
Enfin, sa double face entre voilà, cette femme mère et puis cet ado qu'elle, dont elle se souvenait forcément.
Voilà, et ça fonctionne très très bien pour le lecteur parce qu'il y a deux tensions en fait. Il y a celle de l'histoire, on veut vraiment connaître et comprendre l'incompréhensible. Et on est saisi aussi dès le début puisque ce début ressemble à une fin, on a l'impression que tout est fini, quoi. Elle est là, seule survivante. Donc on est aussi très dérouté et on est tenu donc par le fil de l'histoire, mais aussi par l'intérêt des personnages. Les personnages tissent une complexité, notamment de génération, parce qu'il y a, la mère, la fille et sa propre fille. Et donc, il y a trois générations de femmes qui se tissent aussi, qui se cherchent ou qui se croisent. Et cet aspect-là est très intéressant également.
Bah, oui, parmi les challenges de ce livre-là, il y avait l'idée évidemment de le découper en deux entre donc une enquête de Clotilde en l'été 2016. Donc à la limite, cette partie-là, elle était classique d'un roman policier thriller, puisque voilà, sa mère est morte il y a 27 ans et puis elle reçoit une lettre de sa mère avec plein d'indices qui semblent lui montrer que sa mère est vivante. Donc elle va commencer à enquêter, évidemment, aller voir les flics, elle va se demander ce qui s'est passé 27 ans, enquêter les gens. Donc là, donc on est dans une enquête qui, je dis pas qu'elle fonctionne toute seule, parce que, mais en tout cas, il y a quelque chose, évidemment, on se dit, mais qu'est-ce qui a pu se passer? Et puis voilà, on revient sur les témoins, bon, elle retrouve les... Elle fouille dans les vieilles photos, bon, voilà, on est dans ce truc-là. Donc ça, c'était, voilà, c'était à... entre guillemets facile, puis il y a une tension puisqu'il y a quelques jours il faut qu'elle trouve le ce qui s'est vraiment passé, les gens autour d'elle lui disent t'es complètement folle, elle dit voilà, enfin voilà, on a tout cette dynamique là. Par contre le journal de Clotilde quand elle avait 15 ans, là c'était tout à fait autre chose parce qu'en fait on sait évidemment qu'il va y avoir un accident. Mais ce journal, elle raconte ses vacances comme une ado le ferait. Donc là, il n'y a pas de tension policière particulière. Cette ado, elle raconte ses amours, elle raconte son histoire, la vie de ses parents. Bon, et donc là, on est en dehors du policier. Et c'est ce que j'aime bien souvent dans mes romans, c'est essayer de faire une dimension policière, mais par des voies un peu détournées. Et là, typiquement, bah, dans mon journal de Clotilde, il fallait à la fois qu'une sorte de tension tout de même, mais ça permettait à Clotilde de parler de tas de choses, de la Corse, des vacances, de l'amour, des adultes, des rêves, donc de plein d'autres choses. Donc du coup, ce roman me permettait de mettre, tout en gardant quand même cette tension, évidemment, il n'y a pas d'éléments dans le roman qui ne servent pas au dénouement, enfin qui n'ont rien à y faire, mais néanmoins... voilà, qui prend son temps d'être sur un temps de vacances, et donc on est aussi, on s'installe, enfin, je voulais cette espèce d'impression où on prend le livre et puis on est sur son transat, et il y a le soleil, il y a cette impression de vacances, de temps qui s'écoule un peu plus lentement, et d'un autre côté, la tension, voilà, la peur, le secret, etc. Donc je voulais vraiment ça, et du coup le journal de Clotilde me permettait du coup de me... Enfin, pas de me lâcher, mais d'écrire des choses par la bouche d'une adolescente qui vit ses vacances en regardant les adultes, la Corse, enfin, en regardant les choses un petit peu avec son franc-parler et son insolence, quoi.
Et ce qui est réussi aussi, c'est que c'est une ado de 1989. C'est pas une ado d'aujourd'hui. Donc il y a aussi cet effet de distance, presque de nostalgie, quoi. À quoi on s'intéressait en 1989 quand on avait 15 ans, qu'on n'avait pas le portable. Enfin, il y a plein de petites choses qui rendent aussi ces développements très, très bien vus. Et on est, je crois, assez nombreux à pouvoir partager cette nostalgie de l'adolescence dans ces années-là.
Oui, là, il y avait, bon, moi, là, je me suis inspiré de moi-même, en fait, puisque voilà, c'est, je suis plutôt effectivement d'une adolescence dans la génération des années 80, donc du coup, bon, c'était plus simple pour moi d'à peu près me caler sur les codes de cette génération-là, donc le Grand Bleu, voilà, un certain nombre de références musicales, etc. Bon, après, je pense qu'on aurait pu écrire le roman. Si j'avais eu 10 ans de plus, j'aurais mis les codes des années 70 et peut-être, voilà, 10 ans de moins, des codes des années 90. Enfin, je pense que chaque génération d'ado à ses propres codes, ses propres films cultes, ses propres voilà, chansons complètement démodées, mais qu'on continue de trotter dans la tête, bon, ces tubes de l'été. Bon, ben voilà, donc moi, c'est vrai que j'ai beaucoup joué avec la fin des années 80, qui se trouve aujourd'hui un peu à la mode. C'est vrai qu'on sait bien qu'il y a toujours une génération d'écart, donc c'est un peu la génération des 40-50 ans qui fait la mode et ça glissera. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait bien que voilà, les chansons des années 80 sont finalement très connues de la nouvelle génération, puis sans doute que ça glissera. Les boys bands des années 90 vont revenir sans doute à la mode d'ici 10 ans, parce qu'on trouvera. Bon, ben, il y a des chances, hein, parce que moi, quand j'étais plus jeune, c'était les années 70 qui étaient le disco hyper à la mode, hyper. Voilà, parce que c'était la génération des parents, et sans doute que ça va glisser. Donc, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vrai que ces années 80, elles font encore un peu comme si c'était des années d'insouciance. Voilà, alors, ce n'était pas du tout le cas, je pense pas. Voilà, les années d'insouciance, elles se déplacent comme ça, c'est les années
de jeunesse.
de. Oui, je pense pas qu'en 80, c'était plus insouciant qu'aujourd'hui qu'avant, mais on a comme ça l'impression que c'était l'âge d'or, que la musique c'était mieux, que les cinémas c'était mieux, que voilà. Bon, je pense pas, c'est juste parce qu'on en a le souvenir et qu'on est ému par ça, quoi. Mais je
Et
pense
alors, une chanson connue a donné sans doute son titre, Le temps est assassin, celle de Renaud ou celle de Véronique Sanson?
Alors c'est vraiment celle de Renaud, parce que celle de Véronique Sanson que je connaissais, mais je n'avais pas du tout fait le rapprochement, c'était vraiment celle de Renaud, parce que, alors c'est vraiment, alors, un titre de roman, soit il est tout de suite présent, soit après on galère vraiment. Alors c'est vrai que depuis plusieurs romans, je fais le clin d'œil avec une chanson, et donc c'était l'idée de continuer. Et très vite quand même, cette phrase, le temps est assassin, sachant qu'en plus il n'y avait pas de livre qui l'utilisait, ce qui est étonnant parce que c'est quand même une phrase assez finalement simple, assez évidente, assez forte. Et donc du coup, alors dans Maman à tort, je faisais déjà un petit peu référence à Renaud et à Mistral gagnant. Et voilà, très vite, je me suis dit, voilà, ce passage, le temps est assassin, ferait à la fois un très beau titre, à la fois un mélange de, bah, un peu résumé de ce que je fais, d'un roman policier, mais c'est le temps qui est assassin, donc c'est pas un monstre, c'est pas une espèce de, voilà, de tueur en série, c'est le temps, donc c'est, voilà, c'est la vie qui assassine. Donc voilà, donc je trouvais que c'était un bon résumé de ce que je veux mettre dans mes romans, et puis je trouvais qu'en plus, voilà, pour ceux qui le découvrent, je dis, tiens, le temps est assassin, ça vient d'où? J'ai déjà entendu ça. Et voilà, donc après, il faut un petit cheminement pour se dire, ah ouais, c'est peut-être la chanson de Renaud, Le temps est assassin, et emporte avec lui les rires des enfants. En plus, c'est assez joli, puis c'est la fin de la chanson, donc c'est vrai qu'emporte avec lui les rires des enfants. Bon, voilà, je pense que, sauf les gens qui sont complètement cyniques, mais à part ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent être complètement indifférents à cette notion de, voilà, des rires des enfants qui s'envolent, enfin, tous ceux qui ont eu des enfants, qui les ont vus grandir, forcément voient à quoi ça peut faire référence. Donc voilà, donc je trouvais que c'était à la fois un titre à plein de sens différents, et très tôt, enfin, je l'ai écrit évidemment en ayant toujours ce titre en tête, et donc dans un roman qui est assez nostalgique et assez, voilà, assez mélancolique, puisque c'est quand même pour l'essentiel des gens qui ont 40, 50 ans et dont on voit l'adolescence, quoi.
Oui. Il y a aussi ce thème de l'enfance et la fragilité des souvenirs, quoi, chez l'enfant, qu'on voit aussi dans Maman à tort avec le petit Malone, dont les souvenirs sont précaires.
Oui, bah alors ça, c'est aussi quelque chose que j'ai utilisé dans Le temps était assassin, qui, alors, quand j'ai inventé l'histoire, je ne le voyais pas quand même, mais quand on l'écrit, on s'en rend compte. C'est-à-dire ce côté où le lecteur, il a une longueur d'avance, mais ça marche toujours bien. C'est-à-dire qu'évidemment, le lecteur, il va lire le journal, il va connaître la fin. Donc, il connaît des choses que ne connaissent pas les protagonistes. Mais à la fois, ce que le lecteur connaît, il ne sait pas si c'est vrai, puisqu'il les connaît par le narrateur, par ce que raconte Clotilde notamment. Donc du coup, il y a à la fois cette longueur d'avance, parce qu'il connaît l'avenir, Il sait, tiens, Clotilde, dans son journal, va dire jamais je tromperai, ou moi je serai pas comme les adultes, moi je résisterai, on m'aura pas, etc. Et puis évidemment, le lecteur, il sait ce qu'est devenu Clotilde. Donc il y a ce jeu-là. Et puis il sait jamais complètement si ce qu'on lui raconte, c'est complètement la vérité. Si, voilà, si finalement, même ce journal n'est pas finalement une invention. Donc voilà, donc ça permet plusieurs registres. Et j'adore ces romans où on peut. Mettre un peu les choses en abîme, on peut les lire de plusieurs façons différentes. Et du coup, ouais, ce roman me permettait de jouer vraiment là-dessus.
Et il y a aussi cette mise en abîme du fait que quand on lit ce roman sur la plage et qu'il est question de plage dans le roman, enfin, il y a un effet de miroir et de tiroir qui est assez jubilatoire aussi pour le lecteur.
Oui, et ça, vraiment, je l'ai voulu parce que, alors. Par la force des choses, c'est vrai que comme j'ai un métier et que en plus, comment dire, enfin un métier qui m'a pris beaucoup de temps. Enfin, j'ai écrit mes premiers romans tout en bossant à plein temps. Donc voilà. Donc souvent, j'ai écrit mes romans l'été et même souvent en immersion complète l'été. Donc du coup, j'ai quand même cette image de l'écriture qui est d'écrire quand il fait beau et parfois en vacances, au bord de la plage, en camping. Et donc du coup, forcément, c'est le moment où mon imagination travaille le plus. Et c'est vrai que sans doute, ça expliquait que j'ai envie vraiment d'écrire un roman dont le décor, c'est un camping, c'est la plage, c'est les gens en maillot de bain, c'est, enfin, on retrouve cet univers-là. Et du coup, pendant 2, 3 étés, je notais des idées, je notais des impressions, des commentaires. Alors, tout n'est pas dans le roman, parce qu'évidemment, voilà. Mais à chaque fois, je me dis, tiens, ça, ce serait pas mal qu'à un moment donné, je glisse tel élément pour qu'effectivement, on ait cette. Alors, tout le monde ne va pas lire ce roman La plage, mais qui est quand même cette idée que c'est un roman qui se nourrit de l'observation de ce rythme de vacances. Et donc ça, oui, j'ai beaucoup, j'ai aimé voilà, cet côté pendant 3, 4 étés, comme je savais que j'écrirais ce roman. Voilà, je prenais des petits bouts de notes, des petits trucs comme ça, me dire, tiens, ça, peut-être que je vais m'en servir à un moment donné.
Alors, on vous retrouve donc de roman en roman et de policier en policier, et on sait que tout est extrêmement construit, que rien n'est inutile, et du coup, on participe à ce jeu hein, qui tient au pacte narratif que vous installez, c'est-à-dire on devrait pouvoir trouver, sauf qu'on ne trouve pas évidemment la solution, elle est tellement ingénieuse et en même temps rationnelle, hein, on n'est pas dans un thriller fantastique ou gore, voilà. Mais on se prend vraiment au jeu parce que c'est extrêmement bien ficelé, comme on dit. C'est un
Oui,
peu la règle d'un roman policier.
et puis, alors, ce que j'essaye toujours de faire, même si c'est un peu idiot de dire ça, mais c'est qu'en gros, le lecteur est une chance. Mais que la grande majorité ne trouve pas. Donc c'est ça qui est toujours un peu compliqué de mettre le curseur, parce que si aucun lecteur, absolument aucun lecteur ne trouve rien, c'est très facile de faire ça. Il suffit de pas donner d'indices, hein, et dans ce cas-là, vous révélez tout dernier chapitre, et voilà, le lecteur n'a aucune chance. Voilà, il y a plein de romans qui sont comme ça. Mais ça, c'est un peu facile finalement. Alors moi, j'aime bien effectivement, au contraire, laisser beaucoup d'indices. D'ailleurs, c'est plus simple si vous laissez des indices, parce que ça vous permet de ne pas tout expliquer à la fin, mais que le lecteur reconstitue lui-même, en disant, ah bah oui, évidemment, oui, évidemment. Et donc, j'avais pas pensé, mais tout s'explique. Et si vous voulez en plus que la fin soit psychologiquement vraisemblable, il faut que vous ayez amené le caractère de vos personnages qui font qu'à la fin on se dise bah oui je comprends pourquoi il a fait ça c'est pas voilà. Donc du coup ça c'est compliqué et du coup bah moi quand j'écris mon roman un roman comme Le temps est assassin en permanence je me dis mais c'est gros comme une maison là c'est évident que les gens vont se dire c'est lui ou c'est ça voilà parce que en plus je me dis bah, en plus les gens ils me connaissent donc maintenant ils vont commencer à se douter donc si j'avance dans telle direction ils vont se dire non, non, là je ne suis pas, c'est forcément l'inverse. Bon. Donc voilà, donc à un moment donné, vous jouez avec ça. Et bah là, c'est aussi beaucoup de relecture, c'est beaucoup aussi de tests pour arriver à bien doser les choses. C'est un peu de l'intuition aussi, pour qu'effectivement, il y ait suffisamment d'indices pour que certains trouvent. Et c'est vrai que dans Le temps est assassin, j'ai quand même des lecteurs qui m'ont dit. Là, j'étais sûr de mon coup, je t'ai vu venir. Voilà, là, enfin, peut-être pas tout,
Pas tout de suite.
mais il y a quand même des éléments où les gens ont anticipent, et puis d'autres, pas du tout, qui plongent ou qui partent sur des hypothèses complètement folles que je n'avais pas du tout imaginées. Ça, c'est toujours aussi assez amusant. Les gens me disent, voilà, ah ouais, je suis sûr que c'est ça. Je dis, ah quoi? Oh, ok, allez, continue. Donc voilà, donc c'est ça le jeu de brouiller les pistes, tout en laissant des choses qui soient quand même. Moi, je trouve que dans Le temps est assassin, enfin, quand je le relis, quand je le regarde, je me dis, il y a quand même des choses, c'est quand même assez visible. Bon, mais les gens me disent, non, 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 on n'a pas. Donc ça, Ça, c'est un petit bonheur aussi quand, voilà, quand vous arrivez à... Voilà. Et le côté un peu tour de magie de montrer les choses sans que les gens le voient et que se disent après, ah bah oui, forcément, c'est donc pour ça que
Voilà.
ces éléments étaient là, quoi.
Et en même temps, il y a des trompe-l'œil qu'on sait déjouer, hein, puisque.
Oui, il y a aussi un truc, alors ça aussi, bon, on est un peu dans la petite tambouille là, mais comment dire, je trouve qu'il n'y a rien de plus enrageant aussi qu'un roman policier où on vous dévoile tout à la fin. C'est-à-dire qu'on se contente de poser des questions, d'accumuler les mystères, sans jamais rien donner au lecteur. Je trouve qu'il faut aussi arriver à faire des... Alors, il y a toujours le grand mystère final qui là doit rester un petit peu là, comment dire, le retournement final, le coup de théâtre final, enfin quelque chose dont la promesse, c'est qu'on ne le sache pas trop tôt. Mais il y a quand même toujours des intrigues secondaires où, voilà, on laisse un petit mystère, puis on sait que 3 chapitres plus tard, on aura quand même la résolution. Et là, le lecteur les contrôle, il dit « Ah, ça, je m'en étais douté ». Voilà, mais parce qu'il faut quand même, sinon, je trouve que c'est assez agaçant en permanence de ne jamais rien dévoiler. Donc, voilà, donc c'est aussi un jeu de faire avancer l'enquête ou le mystère en multipliant les questions et de temps en temps en lâchant des éléments ou en mettant des éléments qui sont assez évidents pour que le lecteur soit quasiment sûr que ça au moins il l'a compris, même si c'est pas dit explicitement. Donc je pense que dans Le Temps est assassin, il y a effectivement des choses comme ça. Donc ça permet aux lecteurs qui sont les moins perspicaces, on va dire, de quand même avoir l'impression d'avoir deviné 2, 3 trucs, quoi.
Et alors,
Alors pour cela, si vous ne devinez vraiment pas, là c'est bon, c'est
Et alors
incurable.
la Corse offre un cadre adéquat, comme vous l'avez dit au début. Donc avec ses attendus, hein, pour le lecteur, on attend bon, des choses sur les plasticages, les conflits autour du bétonnage, de l'immobilier, et puis aussi un code d'honneur, des caractères. Hein, le clan Idrissi existe dans le roman de manière très forte et il vaut aussi pour lui-même. Hein, c'est intéressant en soi. On pense à Mérimée, bien sûr. Et en même temps, il y a des paysages. Hein, par exemple, ce qui m'a beaucoup frappé en souvenir de mes dernières vacances en Corse, ce sont les cimetières, quoi, les
C'est
somptueux
vrai.
cimetières qui ont vue sur la mer. Route des Sanguinaires, il y a un des plus beaux cimetières d'Ajaccio. Et là, vraiment, on voit que c'est le quartier des villas les plus prestigieuses. Et pourtant, il y a un grand cimetière, donc il y a un espace qui a plus de prix et plus de valeur que n'importe quel terrain immobilier. Et vous vous en êtes aussi servi dans ce roman.
Oui, c'est vrai. Alors, du coup, il y avait ces deux côtés. Alors, décrire la Corse comme une île par ses paysages, par ses odeurs, par sa flore, sa biodiversité, etc. Ça, c'est pas que c'est facile, mais en tout cas, c'est consensuel. C'est-à-dire que ça, voilà, je m'inquiétais pas beaucoup. Même les Corses les plus susceptibles, si on leur dit que leur île est belle, ils vont pas vous dire le contraire. Hein. Donc, c'est comme dans Astérix, c'est les Corses. Et tu dis que ma femme est belle. Non, non, ah, elle est pas belle, ma femme, s'il te plaît. Voilà. Donc, mais bon, quand on dit à un Corse son île est belle, bon, il va pas. Ouais. Donc ça, c'était... Alors évidemment, il fallait la mettre en lumière, il fallait faire des descriptions, et ça, je me suis beaucoup... Enfin, ça m'a beaucoup plu de rendre hommage à la Corse de ce point de vue-là. Bon, et puis ça faisait partie aussi du but du roman, de faire voyager les gens qui connaissent la Corse, qui ne la connaissent pas, de les emmener ailleurs. Après, il y a évidemment la question de l'identité, des valeurs corse, et là, alors, évidemment, je mets mon roman en Corse pour utiliser on va dire ces stéréotypes, hein, qui sont voilà, le plasticage, la défense de la terre, le code de l'honneur. Alors après, bah, les réactions seront enfin, sont les réactions un peu attendues. C'est-à-dire que, mais comme dans la diversité des Corses et des opinions sur la Corse, c'est-à-dire qu'il y a évidemment des tas de Corses qui n'ont jamais vu un plasticage et qui considèrent que c'est des clichés qu'il faut arriver à évacuer parce qu'ils vivent très bien en Corse sans avoir forcément des gens cagoulés tous les matins au coin de rue, comme quand on parle de Marseille, beaucoup veulent qu'on parle de Marseille autrement. Donc évidemment qu'il y a... Il faut sortir de ces clichés-là, bien sûr qu'il n'y a plus forcément de vendetta, etc. D'un autre côté, évidemment, si je place mon roman et un roman policier, c'est aussi pour utiliser ce qui ne pourrait pas se passer ailleurs, c'est-à-dire bah, voilà, cette idée que, on a cet attachement au clan, on a cet attachement à la famille, qui est aussi une vérité, c'est-à-dire que voilà, tous ceux qui connaissent un petit peu la Corse sachent quand même que voilà, on a un attachement à la Corse, une fierté d'être Corse, qui n'a rien à voir avec ce qu'on rencontre en Normandie ou sans doute à Bordeaux ou ailleurs. Et donc voilà, donc alors après, moi je joue avec, bon bah c'est un peu comme La Réunion, pour chaque roman, il faut prendre ça comme un. Comme un roman qui, voilà, les personnages ont forcément quelque chose d'extraordinaire. Et donc, bah, forcément, parmi mes Corses, il y a des Corses qui sont cupides, il y a des Corses qui sont fiers, il y a des Corses qui sont prêts à tout pour défendre leur terre. Bon, bah, ça fait partie de la galerie de personnages qui pour moi, ne peuvent habiter qu'en Corse, même s'ils sont un peu des figures de roman, quoi. Mais bon, j'ai adoré. Et puis j'aime bien ce côté, par exemple, toutes les remarques sur l'environnement, bah, je trouve que. Évidemment, elles peuvent valoir sur la Côte d'Azur, elles peuvent valoir sans doute sur la baie d'Arcachon, elles peuvent valoir partout ces remarques sur l'environnement, mais en Corse, c'est encore plus marqué, parce qu'il n'y a quand même qu'en Corse qu'ils ont effectivement pris le pouvoir les régionalistes, hein, pas du tout les indépendantistes, hein, mais le courant, bon, je préfère dire régionaliste au sens strict, qui défendent un statut de résident parce que le prix de l'immobilier est tellement élevé que les Corses eux-mêmes ne peuvent plus se payer de maison. Voilà, donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui est valable dans tous les coins touristiques de France, mais c'est quand même en Corse qu'ils ont décidé d'essayer, même si ça ne sera jamais, de trouver des mesures pour faire que, quand même, si on habite en Corse, qu'on arrive quand même à se loger et que ce ne soit pas seulement des gens qui viennent de dans l'année, qui peuvent se payer ça, quoi. Bon, donc du coup, ça permet aussi de parler de ces réalités parce que il y a sans doute ces questions qui se posent de façon encore plus forte en Corse parce que quelque part, c'est la Corse, que c'est peut-être plus beau qu'ailleurs, parce que c'est peut-être plus protégé qu'ailleurs, parce que cet attachement, ce sentiment en Corse. Et puis un truc qui m'a quand même marqué en Corse pour n'y aller qu'en vacances, c'est quand même, et ça, je comprends le sentiment des Corses, hein, de confiscation. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de gens, effectivement la Corse c'est magnifique, et il y a quand même beaucoup de gens qui ont des moyens, et moi j'en serais le premier, hein, d'ailleurs j'adorerais, quand je serais en retraite ou je sais pas quoi, habiter en Corse. Enfin voilà, c'est un rêve de se dire, voilà, on a une villa en Corse, on y va 6 mois dans l'année, l'hiver, formidable. Bon, je comprends, c'est forcément un paradis sur Terre, et je comprends les Corses de se dire, ouais, mais bon, et nous là-dedans, quoi, je veux dire, on n'est pas seulement là. Enfin voilà, que devient notre île, et quel boulot, et le prix du foncier, etc. Et ça, je comprends aussi les Corses de se dire, bon, quelque part, c'est une forme de confiscation. Donc, bon, le roman parle pas, enfin, on parle entre les lignes, mais il y a aussi ce côté, bah voilà, c'est quelque chose de beau et on le veut pour soi sans forcément
Voilà.
le respecter, quoi.
Ouais,
Donc,
il y a des passages précis d'ailleurs où vous avez évoqué cette problématique et c'est intéressant parce qu'on voit que les Corses ne sont pas unanimes, c'est très clivant, même en Corse. Par exemple, quand vous faites dire à Clotilde, je voudrais que tout soit toujours pareil quand je reviens chaque été. Donc, que juste pour elle, tout se fige, quoi, et
Oui, bah ça c'est
que rien
typique,
ne
mais ça c'est un
change.
truc que j'aime bien, parce que tu as Clotilde qui est ado, donc du coup
Ça, c'est à la
elle,
page 210.
donc je peux lui faire dire des trucs, comme je disais, un peu insolents, et elle dit, bah moi la Corse, j'y vais tous les étés avec mes parents en camping, depuis qu'elle est née, évidemment, elle retourne en Corse chez ses grands-parents, et elle, son truc, c'est de dire, bah moi je vois que la Corse, elle bouge pas, quoi, qu'elle se fige comme le château de la Belle au Bois Dormant, quoi, qu'en septembre tout s'arrête, que tout le monde s'endorme, et que je revienne en juillet d'après, et que rien ne soit changé, qu'on n'ait pas construit des trucs entre deux, qu'on n'ait pas goudronné les routes, etc. Évidemment, c'est son point de vue, sauf qu'évidemment, il y a des gens qui vivent là-bas et qui n'ont pas forcément envie simplement d'attendre ça.
Voilà.
Mais elle, de son point de vue, évidemment, sa Corse, c'est sa Corse auquel il ne faut pas toucher, quoi.
Et à l'inverse, il y a dès la page 100, la diatribe de Servonne qui dit à la fille de Clotilde, Valentine, qu'est-ce que tu vois là, en lui montrant donc le magnifique panorama, et elle dit rien, enfin, rien de précis, elle attend qu'il lui en dise plus. Et Servonne exulta, tout à fait, rien. La Corse est un paradis, une des plus belles îles du monde, un don du ciel. Et qu'en ont-ils fait? Rien. Donc il se plaint, lui, qu'on n'ait rien fait pour les jeunes et que les jeunes soient obligés de s'exiler sur le continent pour trouver du travail.
Oui, bah, c'était évidemment le modèle on va dire, modèle Corse versus modèle des Baléares, par exemple, où
C'est
évidemment
ça.
on a construit. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est une façon aussi de. Alors c'est l'avantage du romancier, hein, c'est qu'on peut donner la parole à plusieurs personnages qui peuvent avoir des opinions très différentes. Et du coup, ça permettait aussi de mettre un personnage qui, lui, défend plutôt le développement de la Corse. Alors évidemment, pour faire son business, mais aussi pour dire je crée de l'emploi, je fais des marinas, je fais du 5 étoiles, enfin voilà, je crée de la richesse. Voilà, donc ça permettait évidemment de confronter des points de vue autour de mon intrigue.
Exactement. Donc il y a énormément de niveaux d'intérêt dans le roman, du réalisme un petit peu à l'américaine, un peu de sociologie, de la psychologie, il y en a aussi beaucoup, parce que le couple, par exemple, c'est aussi un thème très présent dans plusieurs couples qui battent de l'aile, plus ou moins, et on le découvre petit à petit. Donc le thème de l'amour qui est présent dans la chanson de Véronique Sanson, hein, Le temps est assassin, je veux de l'amour monsieur, on le trouve aussi, même si vous n'y aviez pas pensé, on le trouve très, très présent dans Le temps est assassin. Alors l'intérêt de n'avoir pas eu du succès tout de suite, c'est que vous avez plein vos tiroirs de prochains romans.
Oui, bah oui, c'est ça. Oui, c'est vrai que ça, c'est un des intérêts, c'est qu'il n'y a pas ce côté je termine un roman, tiens, que je pourrais écrire ensuite. Il y a plusieurs idées possibles à développer. Donc c'est aussi ce qui explique sans doute que j'ai été assez productif, quoi, à peu près un roman par an depuis les 10 dernières années, parce que voilà, il y avait aussi beaucoup de Un avion sans aile, c'est une idée qui date de plus de 20 ans, Nymphéa noir, là aussi, depuis au moins 10-15 ans, même Le temps est assassin, c'est quand même quelque chose que j'avais plus de 5-6 ans en tête. Donc voilà, donc il y a quand même cette idée que ces histoires sont là. Après, un peu le dilemme aussi, parce qu'il y a des histoires qui ne correspondaient pas forcément à ce sur quoi je suis attendu. Donc voilà, donc après, il faut toujours composer entre les trucs qu'on a envie d'écrire, le fait de ne pas écrire deux fois la même histoire, donc enfin en tout cas le même type d'univers, donc de changer, donc j'essaye un peu, puis de se faire plaisir quand on écrit. Donc moi à chaque fois j'ai une règle qui est de, quand j'écris un roman, d'essayer de faire tout de suite quelque chose de différent ailleurs, au moins en termes de pari d'écriture. Donc voilà, donc Maman a tort, c'était vraiment un roman sur la petite enfance, un peu plus quand même polar, dans un univers un peu plus urbain, gris, c'était le Havre, etc. Là, typiquement, Le temps est assassin est un peu en contrepoint avec, au contraire, quelque chose qui est très bleu, très... voilà. Donc, parce que clairement, j'avais envie de mettre une autre lumière sur le roman. Et donc, le prochain, voilà, c'est encore toujours l'idée d'être un peu en contrepoint. Mais c'est même pas un calcul par rapport au lecteur, c'est plus l'envie de pas se répéter et de réinventer, puis de se faire un nouveau défi un petit peu à chaque fois, quoi. En tout cas, d'explorer un autre univers, même si on ne change pas sa façon d'écrire, c'est au moins une façon de se forcer à ne pas reprendre les mêmes recettes, le même rythme, etc.
Il nous reste à remercier infiniment. Parfait. Michel Bussy, donc, pour ce moment très agréable passé ensemble, et à inviter tout le monde, bien sûr, à découvrir le nouveau Bussy et les autres également, pour ceux qui ne les connaîtraient pas. Excellente lecture, quelle que soit votre destination.
Oui, on peut même le lire à la montagne, hein, c'est pas...